Cascodeur Podcast, épisode 217. Interview sur Android, partie 1, avec Pierre-Yves Rico et Romain Guy. Enregistré le 18 septembre 2019. Pour soutenir les cascodeurs, allez sur patreon.com/lescascodeurs. Merci à vous.
Bonjour et bienvenue au Cascodeur. Aujourd'hui, alors j'ai regardé le dernier épisode Android où je t'avais interviewé, c'était en 2009.
Ah, c'était il y a longtemps.
Donc, il s'est passé 2-3 trucs, quoi.
Ouais, effectivement.
Voilà, donc on va faire comme si on avait tout oublié. Ce sera plus simple. Sauf que là, t'es pas tout seul, et du coup, bah, je vais vous laisser vous deux vous présenter.
Ouais, donc moi c'est Romain Guy, je travaille sur Android depuis 2007 chez Google. J'ai fait tout un tas de trucs différents, ça prendrait tout le podcast si je parlais de toutes les choses que j'ai fait, donc on va plutôt laisser Pierre-Yves faire sa propre intro.
Moi je suis Pierre-Yves Rico, je travaille chez Square, et je fais aussi de l'Android depuis 2009. Ouais, à l'époque je découvrais.
Oui, et donc, toi, tu connais rien en Android, c'est ça?
Non, tu vois, regarde, ça, c'est un iPhone, et puis, de toute façon, je développe pas d'appli dessus. Donc, tu vois, tout le contexte, les contraintes, les frameworks, l'écosystème, l'évolution, voilà. Je sais que vous utilisez pas mal Kotlin, voilà, mais parce que.
On y vient.
Après, voilà. Donc, voilà, j'ai mis des sujets. Après, nous, justement, l'épisode d'avant, enfin, l'épisode news d'avant, on a parlé de Android 10, donc, ouais. Un des product managers qui avait fait une liste. Et ça faisait genre, on va essayer de vendre ça à l'utilisateur final, mais à la fin, c'était genre, bon, bah, du coup, toutes ces nouvelles API, ce serait bien que vous les utilisiez, quoi. Donc, c'était, ah, tiens, c'était pour les développeurs. Donc, je sais pas si tu veux en parler un tout petit peu avant. Ou...
Android 10, moi, j'ai pas grand chose à dire, en fait, parce que, donc, chez Google, sur Android, je manage la team qu'on appelle Android Toolkit, qui avant faisait juste le UI Toolkit, et maintenant qui fait une collection de bibliothèques qui s'appelle Jetpack. Et en fait, c'est tout un tas de bibliothèques qui sont utilisées par les développeurs d'applications comme PY pour écrire des applications. Et le but, en fait, c'est de faire des bibliothèques qui ne sont pas sur l'OS, donc qui ne sont pas sur le téléphone, pour ne pas avoir à soucier justement des différences d'API entre les versions d'Android. Et en fait, mon équipe maintenant fait quasiment plus que ça. On fait très peu de travail dans la plateforme.
D'accord.
Donc en fait, il y a des API très intéressantes dans la plateforme, mais c'est vraiment plus mes soucis quotidiens, en fait.
D'accord.
C'est un peu le running gag Android, c'est quand une nouvelle version sort, on dit ah, ce sera bien dans 10 ans, quoi.
Ouais,
pour ans. C'était à l'époque quand je travaillais chez Sun, c'était la même chose. Quand on rajoutait une nouvelle version, je me souviens dans le JDK 1.6, on savait que personne ne s'en servirait avant.
Pendant
4-5 ans.
Parce que t'as toujours le problème de l'œuf et de la poule, le framework qui dit, bah, moi, je perds des utilisateurs si je passe à la version d'après, du coup, je prends pas ton API, bon, bref.
Voilà, donc nous, ce qu'on fait beaucoup, en fait, ça avait démarré avec ce qu'on appelait la support library, et l'idée, c'était de dire quand on fait des nouvelles API dans la plateforme, si on peut
On dit API.
Les API. Non, on va faire du franglais, nous. Donc, quand on a nouvelles API dans la plateforme, on essaie de les backporter, tu me diras quand même ça en français, sur d'anciennes versions. Et si on peut pas, en fait, on simplement, tu peux
en fait. Porter sur ton dos. Sur ton dos.
On a simplement une API, en fait, qui est dans une bibliothèque qui est en dehors de la plateforme. Tu peux la cibler. Et en fait, soit on fera un fallback, soit on fera rien, soit, mais comme ça, toi, quand t'écris l'application, t'as qu'une seule API. Tu te soucies que d'une seule API.
D'accord. Mais justement, c'est une question que j'avais parce que, tu vois, Objective-C, vu que c'est totalement dynamique, tu peux très bien dire, je vais coder un truc qui utilise l'API de iOS 13, et puis si elle est pas là, j'ai un fallback, ce qui fait que mon appli, elle tourne sur du 11 à 13, quoi. Mais dans Java, c'est quand même typé, et du coup, on fait comment?
Alors, dans Java, alors ça dépend évidemment des API elles-mêmes. Quand t'as besoin d'utiliser des types, c'est beaucoup plus compliqué, mais si juste des appels de méthode, juste avec de la réflexion, tu peux t'en servir, sortir assez facilement, en fait. Et nous, ce qu'en fait, c'est qu'on écrit tout ce bazar, on met une abstraction partie dans nos bibliothèques Jetpack, et toi, tu cibles ça, et comme ça, on s'est embêté à écrire tout le boulot.
Ah, qui fait le...
Ouais.
Genre, tu... Bah, on a des un morceau du code qui ne sera appelé par réflexion que si c'est vraiment
que c'est sur la bonne plateforme. Ouais. Et en plus de ça, sur Android, on a un concept qui est assez intéressant qui s'appelle le Target API. Donc en fait, ton application, elle peut dire qu'elle a une version maximum de des API Android qu'elle connaît, une version minimum, mais aussi la version cible. Et en fait, on parfois les API, que ce soit dans les bibliothèques ou dans la plateforme, elles changent de comportement suivant la cible que toi tu as choisie. Donc typiquement, par exemple, si on a besoin de changer le comportement d'une API, on peut dire qu'elle va changer, que le comportement ne va changer que si l'app nous dit qu'elle l'accepte en nous disant je cible la nouvelle version d'Android.
Par exemple concret.
Puis ouais, peut-être que toi t'as des exemples plus concrets, mais.
Alors qu'est-ce qu'on a eu comme ça Moi j'ai que des bugs en général avec ces trucs-là. Donc attends, les permissions, ça a été un exemple assez classique, je pense.
Ouais, les permissions, c'est un bon exemple. Ouais, par exemple, les permissions, c'est dans d'anciennes versions de la plateforme, il y a certaines permissions que tu pouvais demander telles quelles, et en fait, ça marchait.
À l'installation.
À l'installation, et dans nouvelles versions de la plateforme, si tu dis « je cible la dernière version de la plateforme », il faut que tu demandes la permission au runtime. Et en fait, ce que fait la plateforme, elle regarde l'application, elle regarde la version de l'API qui est cible, et elle adapte son comportement en fonction de ce que tu as dit. Alors après, il y a d'autres choses à prendre en compte, par exemple le Play Store, tu publies des applications. On est en train de forcer en fait de cibler des API plus récentes.
D'accord.
Mais donc ça nous permet d'avoir entre les bibliothèques, le concept de min, de max et de target API, on peut cibler différemment.
Et de manière générale, si on est sur des choses où on n'utilise pas la support la Jetpack pour une feature, en fait, t'écris if là, et donc tu vas aller chercher une constante qui est non final, qui est mise à jour en fonction du runtime, et tu dis si elle est cette constante là, elle est supérieure à telle valeur, alors je sais que je suis dans telle API et donc je peux appeler cette méthode.
D'accord. Il y a une autre personne qui m'a aidé là sur trouver les sujets là, Cyril, qui justement me parle. Alors moi, je connais rien, donc il y avait un mot clé Jetpack Compose.
C'est ça.
Il faut que t'en parles, faut que tu demandes à quoi. Alors attends, du coup, voilà, pourquoi, où on en est, et puis une petite comparaison avec peut-être la compétition.
Ouais, alors Jetpack Compose, en fait, ce que je te disais, alors Jetpack, donc je te disais, c'est une collection de bibliothèques qui servent à créer des applications, et dedans, on a des choses, par exemple, pour faire de l'accès aux bases de données, pour faire du scheduling de travail dans le background, et on a aussi des bibliothèques pour faire de l'architecture d'applications.
C'est genre le Spring Framework d'Android.
Et donc ça, pour rappel, vous dites on supporte d'Android, je dis des chiffres à hasard, parce que je ne sais pas, de 7 à jusqu'au dernier.
C'est ça, ouais. Et donc on supporte plein de versions. Et donc on avait toutes ces bibliothèques, mais un grand bout qui manquait, c'est tout ce qui était l'interface graphique.
Ouais.
Et en fait, on s'est dit, bah tiens, si on prenait le UI Toolkit, et qu'on en faisait une bibliothèque qui n'est plus dans la plateforme, mais qui est dans les applications. Et en fait, on a commencé à réfléchir à ça. Au début, on s'est dit, on va juste prendre le UI Toolkit tel quel, on va le bouger dans une bibliothèque. Mmh. Puis on s'est dit, bah, c'est con, si on fait ça, au passage, tant qu'à faire, essayons d'améliorer un peu les API, parce que nos API maintenant sont un peu vieilles, on a quelques regrets.
Elles sont très bien,
Il y en a qui sont bien. Il y en a d'autres qui sont moins bien. certaines que j'ai écrites, même. Et évidemment, en commençant à réfléchir à comment on pourrait améliorer, c'est devenu, réécrivons un toolkit complètement nouveau. Et en même temps, à ce moment-là, en interne, en fait, on avait un autre projet d'une autre bibliothèque qui s'appelle Compose, qui était de faire de la programmation réactive basée sur Kotlin. En fait, c'est une extension on utilise un plugin du compilateur Kotlin pour permettre de faire de la programmation à la React, mais en Kotlin et nativement. Donc, c'est pas fait à runtime, c'est géré par le compilateur. Donc, on s'est dit, si on faisait les deux et si on faisait un UI Toolkit donc qui est réactif, qui est une bibliothèque que les apps peuvent mettre dans leur application, donc comme ça, ça nous permet aussi de délivrer ça nous permettra de délivrer des nouvelles fonctionnalités, des corrections de bugs plus rapidement et sans attendre de nouvelles versions d'Android.
D'accord. Alors j'ai deux questions, j'essaie de pas les oublier. J'ai des Stack Overflow deux, tu vois. Mais bon, la première, c'est du coup Jetpack, il va dire sur Android 7, le bouton était plutôt comme ça et du coup je le représente à l'ancienne et sur la version 3 fois après, le bouton est plus...
Ouais, alors en fait, c'est ce qui se passe quand tu utilises le toolkit de la plateforme, mais en discutant avec des développeurs d'applications, on s'est rendu compte que c'est pas forcément ce que veulent les développeurs, en fait. Parce que ça leur fait... En fait, eux, ça leur fait aussi beaucoup de travail de devoir vérifier que l'application... C'est rare qu'en fait, les développeurs utilisent simplement bêtement les composants de base, ils font les leurs, ils font le branding, etc. Donc en fait, ce qu'on nous a demandé, c'est plutôt, on veut avoir un look qui est stable, en fait, sur toutes les versions. Et donc, en fait, c'est ce qu'on va faire. On aura une version des composants avec Jetpack Compose. Ils seront pareils sur toutes les versions d'Android. D'accord.
Du coup, potentiellement, d'une appli à l'autre, il y aura une petite perte de cohérence en fonction de...
Ouais, c'est possible. Par contre, on fait la distinction aussi entre les composants, comment dire, applicatifs et les composants système, donc des choses comme le time picker, un file selector si on avait sur Android. Ça, on considère que c'est des composants système. Eux, ça reste ceux de la plateforme. D'accord. Et on appellera celui qui vient avec chaque version d'Android, mais il fait pas vraiment partie de l'application de toute manière. D'accord. C'est généralement une boîte de dialogue qui apparaît, donc de toute façon, c'est pas...
Historiquement, c'est quand même un des bugs de UI très communs sur Android, c'est que tu crées ton style à partir d'une version d'Android en adaptant, tu prenais le style de base et tu changeais 2-3 attributs, et c'était nickel. Et ensuite, une nouvelle version. Voilà. Et d'un seul coup, en fait, ils avaient changé tout un tas d'autres attributs et t'avais un truc blanc sur fond blanc, enfin, des choses comme ça. C'était
cool.
D'ailleurs, j'ai une application sur mon téléphone qui a encore un menu avec du texte en rose, et je pense que c'est parce qu'ils ont pas corrigé. Ça fait un an.
Ouais. Ça fait longtemps d'ailleurs que ça fait plus, mais sur, je sais plus quelle version de iOS, il y a eu un moment où t'avais les trucs à l'ancienne, déjà, tu sais, quand ils se sont mis à agrandir les écrans.
Ah oui, l'application, elle a une plus petite taille que l'écran. Ouais, ça c'était les débuts.
Et du coup, c'est quoi l'avantage?
Tu avais une deuxième question.
Oui, c'est ça, ça y est, j'ai trouvé. C'est quoi l'avantage de faire un toolkit réactif?
Ouais, alors en fait, une grande partie des bugs, on a fini par se rendre compte dans les UI, c'est en fait lié à garder le modèle de données de l'application et le modèle de données du UI Toolkit synchronisés.
Ouais.
Donc généralement, ça se fait en installant des listeners dans tous les sens pour aller d'un sens à l'autre. Alors il y a tout un tas de patterns, il y a les MVC, les MVP, les MVV, machin. Enfin, j'ai perdu compte du nombre de patterns qui font ça. Mais en fait, quasiment, ouais, la plupart des bugs de logique dans les UI viennent de là. Et dans le modèle réactif, en fait, l'idée, c'est vraiment de dire, OK, le flot de données, il va de l'application. Donc, l'application a le modèle de données, elle le donne à la UI, et c'est la single source of truth. Donc, il n'y a qu'une source de vérité, c'est ce modèle de données de l'application. Et les composants de la UI, ils lisent ça directement. Donc, on évite de la duplication de données. Et en retour, les événements, donc tout ce qui est réagir en un clic sur un bouton, ça va que vers le UI toolkit, vers l'application, pas dans l'autre sens. Donc on a les données qui vont dans le UI Toolkit et les events qui remontent. Et en fait, pour faire ça... alors après, on peut le faire de tout un tas de manières, mais la manière dont c'est souvent fait, par exemple avec React, ou ce qu'on fait avec nous avec Compose, c'est qu'en gros, c'est comme d'avoir du data binding directement dans le langage. Donc si jamais tu modifies une valeur dans le modèle de données, la UI se met à jour automatiquement. T'as pas besoin de faire des push en fait de la UI, de dire « update my UI ».
Et c'est pas un truc où des fois, t'as pas envie de ça?
Alors justement, le problème avec le data binding, c'est qu'on a vu par exemple, ou que j'ai vu dans le passé avec NoteUI Toolkit ou Swing, c'est que justement, comme tu as ces deux modèles, c'est très facile de se retrouver dans un cas où tu crées des espèces de boucles dans ton data binding, où t'as des valeurs qui se propagent automatiquement à travers le système. J'ai vu ça dans Android Studio, ils avaient utilisé du data binding, où quand tu importais un fichier SVG, en fait on l'importait 6 fois, parce que quand tu cliques au bouton import, ça triggerait un truc qui mettait à jour un champ texte, qui lui triggerait autre chose, qui recréait l'import, etc., etc. Et en fait, avec le modèle donc réactif, comme on est très très clair sur le fait que la donnée ne va que dans un sens et les events ne vont que dans un autre, en fait, on casse justement ces cycles qui peuvent arriver.
D'accord.
Et qui étaient parfois aussi c'est des sources de problèmes de performance, parce que tu te retrouves à faire des boucles sans le savoir. Donc ça simplifie beaucoup le modèle de développement.
Et ouais, du coup, mais moi, ma question, c'était plutôt... je suis en train de bouger mes mains, mais vous verrez pas ça dans le podcast.
On bouge beaucoup les mains, là. Ouais. À la droite.
T'as tes données d'un côté. Alors, mettons que ça soit poussé par le... Tu vois, t'as un back-end réactif qui pousse ma data. Donc, ça y est, j'ai la nouvelle version de la data. Puis la data, du coup, elle dit, ça y est, j'ai ma nouvelle version. Du coup, pouf, ça met à jour la UI. Mais peut-être que je voulais temporiser d'avoir reçu un certain nombre de data avant de
pousser tout d'un coup. Alors, si tu veux temporiser, en fait, il faudra le faire au niveau du modèle de ton application. Il faudra que toi, tu crées ton propre...
Un modèle intermédiaire qui choisit quand
il synchronise tout. Mais le problème qu'on a fait dans le passé, chaque fois, justement, dans UI Toolkit, on a voulu simplifier les choses, en fait, en ajoutant ce genre de fonctionnalité dans UI Toolkit. Ce qui s'est passé, c'est que la première version, ça va. Puis tout le monde trouve ça bien parce que c'est facile. Et au bout de 10 ans, il y a plein de features. Et tu commences à avoir des bugs entre les features, c'est compliqué à apprendre, il y a des bugs, il y a des trucs qui ont plus de sens, donc il faut les débriqueter. Donc on évite vraiment ça. Et nous, en plus, on a poussé le modèle assez loin dans Jetpack Compose, en fait. Et on s'est dit, finalement, ce modèle, t'as de la donnée, et la UI, c'est juste une transforme de la donnée. tu t'appliques une transformation, en fait. Et la transformation, c'est input donné, output de la UI. Et l'exemple typique que j'aime bien, qu'un collègue utilise souvent, c'est t'as une fonction qui prend en paramètre un entier et qui fait println l'entier. Bon, bah, t'as déclaré que tu veux juste afficher l'entier. Et en fait, nous, on le voit comme ça. C'est-à-dire que tu crées, en fait, une fonction. Donc, tous nos composants, maintenant, c'est des fonctions, c'est plus des classes. Tous les paramètres, les modèles de données, c'est des arguments que tu passes à la fonction. Alors, on a un petit système qui permet, en fait, de créer des classes pour le modèle de données, histoire que tu puisses quand même packager tes choses un peu bien. Et en fait, si tu affiches un bouton, tu appelles la fonction qui s'appelle bouton. Tu donnes ses paramètres. Et nous, après, avec un peu de magie, on générera une UI au bon moment.
D'accord.
Mais
donc, ça se rapproche aussi du modèle fonctionnel, en fait.
Ouais.
En fait, pour ajouter là-dessus, je dirais que c'est une tendance du monde mobile très très forte. Mmh. Donc déjà sur iOS, je crois que c'est SwiftUI qui fait ça.
SwiftUI, ouais, en fait, qui a été annoncé juste un mois après. Alors oui, c'est un peu différent. Ils le font sous forme d'une expression que tu assignes en fait à un champ de ta classe, mais c'est la même idée en fait.
Et après, donc
c'est au niveau langage qu'ils ont introduit ça.
Voilà. Alors nous, on le fait un peu au niveau langage parce qu'en fait, on se plug dans le compilateur Kotlin et en fait, les fonctions, tu fais du Kotlin.
Non.
En fait, une bonne comparaison, c'est les coroutines en Kotlin qui sont des fonctions qui ont un mot-clé qui s'appelle suspend et en fait qui peuvent être appelées plusieurs fois ou de manière déférée. Donc c'est pas des fonctions normales. Tu peux pas les appeler juste comme ça quand tu veux, comme tu veux. Mais en fait, nous c'est le même concept, sauf que on a mis une annotation parce qu'on change pas le langage, on fait pas un fork de Kotlin et c'est pas un annotation processor, c'est un peu entre les deux. Mais c'est la même idée, c'est on a des fonctions qui en fait ne sont utilisables que dans un contexte particulier dont les règles sont un peu différentes des autres.
Du coup, deux questions du report. Statut.
Alors, le statut, c'est que on a annoncé qu'on travaillait là-dessus à Google I.O. donc en mai 2019. On l'a mis en open source. C'est-à-dire qu'on maintenant, on a déplacé tout le développement, on le faisait en interne, on a tout mis sur les serveurs externes, donc les gens peuvent regarder ce qu'on fait. Et le statut, c'est qu'on essaie de shipper ça le plus rapidement possible.
D'accord.
Mais pour le moment, on dit pas quand ce sera.
Shipping when it's ready.
Voilà, c'est ça. Mais on veut pas aussi. On veut pas que c'est pas un projet de recherche. C'est qu'on veut pas que ça dure des années. Vraiment. Mais bon, ça fait presque 2 ans qu'on bosse là-dessus sous différentes formes et on a beaucoup amélioré les API. Et puis on a déjà reçu pas mal de feedback de la communauté, ce qui était le but en fait d'open sourcer. Donc ça nous permet d'améliorer certaines choses.
D'accord.
Et le truc intéressant avec Jetpack Compose, c'est que en fait, ce qu'on a fait au niveau du compilateur Kotlin, lui, il connaît rien à la UI. La UI, en fait, c'est une instanciation de notre modèle réactif. Et en fait, on a un système de runtime qui permet de. En fait, on pourrait s'en servir pour générer n'importe quel type d'arbre. Donc, tu parlais d'une base de données, un document XML. En fait, on pourrait utiliser notre système Compose pour générer ces trucs-là. Ça n'a pas besoin de la UI.
D'accord. Donc, deuxième question, si je veux utiliser Jetpack Compose, je dois utiliser Kotlin.
Tu dois utiliser Kotlin. Alors oui, pour le moment, on veut avoir de l'interopérabilité dans les deux sens. Et donc, on a un prototype, en fait, d'une annotation où on pourra dire, voilà, ce composant que j'ai créé en Jetpack Compose, je veux m'en servir avec Java. Et en fait, on générera un wrapper.
Un wrapper.
un emballage. Comment tu dis ça? Un emballage.
Un
wrapper. Pour
un Henri Tremblay.
Voilà. Magnifique. Pour s'en servir depuis Java.
D'accord.
Kotlin, c'est bien.
Ouais, Kotlin, c'est bien. En fait, le truc que je voulais ajouter, c'est quand de manière générale, cette idée de flow unidirectionnel avec des états, des events, etc. Ça vraiment, c'est pas juste Google et Apple.
Non, mais d'ailleurs, en fait, je dirais même, c'est marrant, les gens nous demandaient, tiens, c'est marrant, SwiftUI et Compose arrivent en même temps. Ma réponse, c'est, ça montre qu'Apple et Google, on est des grosses compagnies, on a le même temps de latence, en fait, par rapport à la communauté. Parce qu'en fait, les trucs comme RxJava ou...
Alors, il y a RxJava d'un côté où c'était plus c'est plus du Reactive Stream, c'est encore un petit peu différent.
Ouais.
Mais pour moi, donc, j'étais à DroidCon New York, il y a quelques semaines, et en fait, tu as plusieurs autres boîtes qui font du mobile, par exemple, Airbnb, ou Netflix, ou Square, qui ont toutes, inventé leur propre interprétation de React, et ont construit quelque chose dessus. Et en général, l'idée, c'est, aujourd'hui, la façon dont on pense à ça, c'est, on va voir un peu ce que font Apple et Google, ils sont tous en train de faire, Jetpack Compose et SwiftUI, Mais ces choses-là sont très, quand même très liées à la UI et on essaye de construire des trucs au-dessus de ça. Où l'idée, c'est, bah, j'ai créé de la logique purement, de la business logic pure, mais dans un mode, j'ai des états, j'envoie des events et j'ai output des view rendering. Et ensuite, j'ai un truc qui traduit ça en qu'est-ce que ça veut dire dans Compose, qu'est-ce que ça veut dire dans SwiftUI, etc. Donc, tu vois vraiment cette transition. On est tous en train d'aller vers des classes immuables.
Et en fait, je pense qu'on est tous venus naturellement parce que quelque chose qui, moi, me surprend toujours, ayant été dans le mobile depuis maintenant presque 13 ans, en fait, c'est la complexité des applications mobiles modernes. C'est vraiment des applications énormes qui ont beaucoup de code. Et à juste raison, c'est des applications qui font beaucoup de choses, mais c'est des applications qui ont des centaines d'écrans, des millions de lignes de code. Mmh. Donc, c'est vraiment pas des trucs triviaux. Et c'est vrai que les modèles de développement qu'on avait il y a 10 ans pour faire les premières applications mobiles ne marchent pas à cette échelle.
Ouais.
C'était immaintenable. Et, c'est pour ça que tout le monde, en fait, est arrivé à peu près aux mêmes conclusions, en fait.
D'accord. Alors, petite parenthèse. Quand je pars sur Docker Compose... c'est quoi ma garantie que si je prends la version d'après, enfin j'ai du boulot, si je prends la version d'après, vous pétez des API.
Alors Compose,
Jetpack.
Ouais. Général,
c'est ça. Alors Jetpack, on utilise le semantic versioning. Donc si tu
suis toujours en version majeure à chaque fois, donc on se fait pas chier.
Non, on fait aussi des versions mineures, mais même avec le semantic versioning, la compatibilité, c'est quelque chose à laquelle on fait très attention. Donc c'est très rare qu'on casse les API. Pour Compose, on verra. C'est vrai que nous aussi, c'est un intérêt, ça nous permettra de changer ces API. Mais je pense que si on le fait, on aura sûrement des outils ou au moins des refactoring automatiques. On l'a fait récemment, en fait, Jetpack. Comme ça, c'était né de manière un peu organique, on avait des noms de packages qui étaient un peu bizarres et pas super pratiques. Et il y a un an et demi, je crois, 2 ans, on a tout renommé les packages. Maintenant, ça s'appelle Android X. Quelque chose. Et en fait, on a créé un outil qu'on appelle Jetifier qui, plus ou moins automatiquement, arrive, la plupart du temps, à prendre ton application, la convertir, prendre tes dépendances, les convertir, etc. Donc, on fait attention à ce genre de choses. Mais c'est une bonne question.
J'aime bien comment Romain me regarde en souriant, en disant ça.
Est-ce qu'il va me défoncer?
C'est pas facile à faire, finalement.
Non, c'est pas facile à faire.
Parce que il y a les trucs rigolos comme les appels par réflexion, le JNI, le code natif.
Alors, ça serait, je veux bien un pointeur là-dessus parce que donc, juste, côté back-end, là, Oracle a filé Java E à Eclipse, mais il a dit, vous pouvez pas continuer à utiliser les noms de package si vous modifiez les trucs, faut les renommer. Donc, on va avoir un problème un peu intéressant comme
il
ça, même.
Il suffit de les renommer.
Mais ce qui veut dire que quand tu fais tourner une ancienne appli qui a décidé de pas bouger, versus, voilà.
Alors,
ce que tu dis, c'est que ça fait un...
Ouais, alors justement, nous, ce qu'on fait, c'est par exemple, mettons que toi, t'as une application et que t'as décidé de bouger sur les nouveaux noms de package, mais t'as une dépendance sur une bibliothèque qui, elle, n'a pas bougé parce que, il n'y a pas une nouvelle version. Justement, Jetifier va aller faire ça pour toi. C'est une phase de compilation, en fait. Il va s'occuper des...
En fait, le problème de Jetifier, c'est que ça le faisait que... c'est super de ce point de vue-là. Si t'as décidé de passer à la nouvelle version du truc et que t'as des vieilles librairies, ça marche. Là où c'est un peu compliqué, c'est que si t'as une librairie qui a décidé de se mettre à jour, mais que toi t'as des millions de lignes de code qui utilisent l'ancien package, et en fait t'as pas de solution. Je peux pas utiliser la nouvelle version.
Bon, après on est quand même dans un univers upgrade boomer, quand même, de manière générale.
Mais les upgrades sont pas, en fait, bon, ça s'est un peu amélioré, mais au départ tu dis c'est juste un grep et puis tu remplaces tous les packages.
En fait non.
En fait non, parce qu'en fait t'étais peut-être dans une ancienne version de la librairie d'avant. Et ils ont changé les API, et puis et donc, en fait, il faut que tu commences par faire une mise à jour vers toutes les dernières versions de la librairie, ce qui implique tout un tas de problèmes. Ouais. Et ensuite, tu fais la mise à jour vers Jetpack, vers Android X. Et ensuite, tu réalises que maintenant, les numéros de version sont plus, avant, tu pouvais dire, toutes les librairies Android X sont sur la même version. C'est-à-dire que j'ai 25 dépendances parce que c'était assez cassé et je mettais tout sur la même version et c'était bien. Mais aujourd'hui, les versions sont plus forcément synchronisées, donc il faut essayer de comprendre. Alors attends, là, j'utilise telle version, il faut que j'ai telle autre version de telle dépendance. Ah, mais j'ai rajouté tel machin, ça bump tout vers le haut. C'est un peu plus compliqué.
C'est pour ça que t'es bien payé.
No comment.
Et
c'est toi, non, merci au contraire.
Tout le monde ne travaille pas dans la Silicon Valley. En fait, à un moment, t'as dit, on a un flow fort unidirectionnel. Et en fait, on s'est inspiré de Eric Java. Et pour moi, c'est pas hyper clair que t'as un flow fort unidirectionnel quand tu fais du Eric Java.
Non, c'était, c'est, En fait, l'avantage d'arriver un peu après ce genre de choses, les React, etc., c'est que justement, on a pu regarder toutes ces idées autour des flux réactifs, et même des langages réactifs avec React, etc., et d'en extraire ce que nous, on considérait être des fondamentaux. Donc, c'est pas que Eric, lui, est comme ça, mais il y a des principes vraiment où tu essaies d'être plus déclaratif déjà. Tu peux faire du réactif qui est pas déclaratif et inversement, et nous, ce qu'on veut faire, c'est un modèle réactif et déclaratif. Donc on verra là on atterrira, et je pense qu'on aura forcément des regrets comme n'importe quelle nouvelle API, mais on essaie vraiment de simplifier à mort, et une des simplifications justement c'était de se rendre compte on veut que la donnée aille que dans un sens et,
D'accord. Ouais.
Un des trucs qui va avec, c'est l'idée d'avoir des types immuables, et donc un langage comme Kotlin rend ça beaucoup plus facile que Java en fait. Tu peux quand même faire des erreurs, mais ça reste quand même globalement je trouve assez facile de
C'est plus facile quand tu crées des nouveaux types. Le problème classique, c'est si t'as des types existants.
Date.
Oui. qui n'ont pas été designés.
Des dates qui sont pas immuables. Non, c'est vrai.
Celle de Java.
Celle de Java.
Tu peux faire setTime dessus.
Et ouais. Et d'ailleurs, c'est un problème même en Java, c'est que si une classe n'a pas été designée de manière immutable, bon, c'est fini. Alors que dans des langages, par exemple, les langages natifs, tu peux juste dire, non, j'interdis l'accès à la mémoire, et bon, tu peux pas, quoi. Donc ça, c'est quand même le truc qui manque, qui nous simplifierait la vie, parce que, comme on essaie justement cette fois-ci de rendre les choses vraiment faciles pour les développeurs, on se retrouve souvent dans ce cas-là, justement, on dit, on n'a qu'à dire qu'il faut que toutes les données soient immutables. En fait,
pas de garantie.
On peut pas le garantir. Mmh. Et c'est un peu difficile de dire aux développeurs, si t'as un bug à cause de ça, c'est de ta faute, parce que les bugs peuvent être super subtils. On réfléchit beaucoup à ces problèmes, on essaie de voir ce qu'on peut faire, si on peut aider au niveau du compilateur, mais même là, c'est très compliqué à faire.
En plus, à la route, problème au cœur, c'est Java, mon truc est final, donc c'est bon. Ta référence est finale, et donc après derrière.
Et puis, je veux dire, même si t'as fait une classe qui est immutable au niveau des API, t'as toujours la réflexion sur les champs privés, tu peux aller taper dedans le JNI. Bon, si l'application veut vraiment les faire foutre la merde, elle peut. Mais j'aimerais vraiment avoir les value types.
Ouais.
Ça arrive dans Kotlin.
Oui, mais dans Android, c'est quoi, 20 ans après? Parce que si moi, je suis coincé. Donc voilà, c'était une autre question. Vous êtes à quelle version de Java, là?
Java 8. Le langage Java 8.
Là, on sent le googler qui parle. Qui sort. Attends, on m'a dit.
Mes propos n'engagent que moi.
Ouais. Alors, il y avait Jake qui parlait de backporter des API de manière automatique avec le compilateur.
J'avoue que je sais pas du tout où on est, ce qui se fait. Mais on faisait déjà des choses. Donc, on a ces outils qui s'appellent D8 et R8 qui font du de-sugaring. En fait, on peut prendre du bytecode qui est fait pour Java 8 et en fait le recompiler. Faire des anciennes versions de... Donc typiquement, ça va être si t'as des lambda, on va en refaire des classes pour que ça tourne sur d'anciennes versions. Donc c'est ce qu'on appelle le desugaring. Et il y a deux tools qui font ça, il y a Bazel et je crois que...
Et il me semble que... Alors après, c'était donc Jake Wharton sur Twitter, qui maintenant il bosse dans ton équipe, il parlait de l'idée, et a priori ça va finir par arriver, de non seulement faire des conversions au niveau du langage, mais aussi au niveau des nouvelles API qui n'existent pas dans les anciennes versions, en transformant le bytecode pour qu'il appelle les backports et en ajoutant les librairies de backports dans le code.
Parce que je posais la question, parce que à cause de vous, en fait, ça a des impacts sur le backend aussi. Eric Java 2, en fait, il reste coincé parce que c'est hyper populaire, donc du côté Android. Eux, ça les intéresse pas. Ça serait un anti-pattern d'aller vers des versions modernes de Java avec des nouvelles fonctionnalités du langage. Et du coup, dans le backend, on a ça, et après, il y a d'autres qui ont du coup forqué, en gros, plus ou moins, RX, un moteur, et puis on fait leur truc.
Moi, je veux dire, c'est la faute des gens qui font du backend. Il y a 10 ans, c'était eux qui bougeaient jamais sur les nouvelles versions. On était sur Java 6, et vous étiez tous sur Java 1.2. Alors, c'est votre tour maintenant.
C'est ça. Donc, c'était assez rigolo, parce qu'on en parlait aussi de la compilation AOT avec... puis voilà, avant que t'arrives, et du coup les similarités entre les deux mondes en fait, et les influences un peu qu'on a, enfin influences ou contraintes qu'on se met en fait.
D'ailleurs c'est marrant, parce que sur Android, donc au début on, les premières versions on avait juste un interpréteur, après on avait rajouté un JIT, après on avait eu ART, on avait décidé ok on laisse tomber ça, on fait de l'AOT, et en fait maintenant on fait les trois, comme ça il y a pas de jaloux.
Et donc AOT, c'est Ahead of Time.
Ahead of Time compilation. Ouais. Donc ce qui se passait, pour Android, c'est qu'on installe l'application, on la compilait en fait en natif. et après on faisait tourner directement la...
Donc le problème de ça,
c'est que par exemple on mettait à jour l'OS et qu'il fallait recompiler toutes les applications, ça mettait un peu de temps. On a décidé d'arrêter. Donc maintenant, ce qu'on fait, par exemple, l'AOT sur Android, c'est donc on utilise le JIT, lui regarde les codes passe qui sont chauds pour savoir quoi JITer. Et en fait, après, on regarde c'est quand les applications sont dans le background, quand le device est pas occupé, on prend les traces du JIT en fait et on compile ça une bonne fois pour toutes.
Donc c'est-à-dire que je mets à jour mon Android et tout de suite je démarre les applications, elles vont peut-être un peu lent, parce qu'au début, ça va être interprété jusqu'à ce que vous ayez vos profils et que je le laisse tranquille la nuit.
Alors,
et qu'il
se fasse oui, mais c'est plus compliqué maintenant, parce qu'avec le Play, c'est un téléphone d'Android qui a le Play Store. Ce qu'on fait, en fait, c'est que on utilise un agrégat des traces de JIT. Par exemple, une application a été installée, je sais pas, on va dire 1000 fois. Donc, elle a été JITée par plein de téléphones. Le Play Store va le savoir. Et comme ça, la prochaine personne qui installe, on va lui donner directement les traces de JIT. Pour éviter justement d'avoir la phase d'interprétation.
Donc le take-away.
Est-ce que vous faites un peu comme j'ai l'impression, ouais, c'est que de temps en temps vous envoyez, vous laissez un téléphone sans lui filer les trucs pour voir si ça a pas évolué en
Alors
de...
ça, aucune idée, mais le A/B testing, c'est un truc qu'on aime bien dans la Silicon Valley, pareil.
Parce que ouais, c'est des fois tu dis, mais putain, mais pourquoi il m'a envoyé là? Ah bah t'es le canari en test pour voir si peut-être c'est le meilleur chemin. Tu sais.
Moi, ce qui m'en fout, c'est qu'en tant que utilisateur, c'est dans les applications, tu sais, tu lances une application sur ton téléphone, tu pourrais jurer que t'avais vu un bouton ou un menu, tu fais, mais il est pas là. Alors tu sais jamais si c'est toi qui te souviens mal ou c'est eux qui ont changé un expériment sur ton...
En fait, moi, la façon dont je comprends tout ça, c'est que il faut être le dernier à mettre à jour son téléphone et le dernier à mettre à jour ses applis, comme ça, tout le monde a recompilé le truc.
Ouais, c'est ça.
C'est coup, comme quand il y a une nouvelle version d'une bibliothèque, faut être le dernier à l'apprendre, comme ça, tu prends un point quelque chose.
Ouais. C'est pour ça que les gens, ils renomment leur version. Alors là, on est version 19, là.
Bah, quand tu fais une librairie open source, il faut très rapidement aller à la version 2 parce que tout le monde sait que c'est celle qui marche bien. Donc elle va être adoptée.
C'est comme ça que ça marche.
Et ben, ouais, donc le framework AOT du moment dans le backend, c'est GraalVM. Et ils sont passés de, en gros, de Graal 1.0 RC 16 à Graal 19.
Je vais dire Graal 2019.
non, quand même pas.
Ils ont bien les bugs devant.
Donc ils auront un bug dans. Et en pétant des trucs d'ailleurs, parce que sinon c'est trop facile.
Ah bah attends, ils ont changé de 18 versions d'un coup.
Ouais, c'est vrai, t'as raison. Sémantiquement, ils étaient safe. ouais, donc Kotlin.
Ouais, donc Kotlin, Kotlin, c'est intéressant. C'est quelque chose, en fait, qui est venu surtout de la communauté Android. Il y a 2 ans, à Google I.O., on a annoncé qu'on soutenait officiellement Kotlin comme un langage officiel sur Android. Donc c'est la première fois qu'on faisait ça pour un langage depuis qu'on avait lancé Android. Parce qu'on a toujours eu Java et C++.
Ouais.
Donc là, c'était Kotlin, et pendant des années, on nous a demandé, il y a beaucoup de langages qui sont passés par là, plein de gens nous ont demandé, et c'est Kotlin qu'on a choisi. Et la raison principale, en fait, c'est la faute de PY et ses copains. C'est les développeurs d'applications Android, en fait, qui, nous, ça faisait un moment qu'on regardait Kotlin, mais ça a commencé à être vraiment populaire parmi beaucoup de nos développeurs. Et donc, on s'est dit, si c'est ce que veulent nos développeurs, allons-y avec eux. Comme ça, nous, on s'assurera que la toolchain marche, que l'IDE marche bien, que les API marchent bien, etc. Donc on a suivi la communauté. Donc ça, c'est il y a 2 ans. Et cette année, en fait, il y a un an, on a dit qu'on recommandait que les gens regardent Kotlin et s'y intéressent vraiment. On soutient toujours Java et on continue à faire de nouvelles API, etc. La plateforme, elle, les API restent en Java. Et cette année, on a annoncé qu'on est Kotlin first. Donc en fait, on va faire de plus en plus de choses vraiment pour Kotlin, et notamment dans Jetpack, on a des bibliothèques qui sont par exemple Paging, dont la version 3 arrive, et réécrite en Kotlin. Donc on veut vraiment, nous c'est vraiment là où on se voit aller, mais on fait quand même attention, on veut s'assurer que nos API Kotlin peuvent être utilisées depuis Java, et qu'on abandonne aucun développeur, mais l'expérience la meilleure en fait sera pour nous, on considère avec Kotlin.
Mais du coup, vous avez une parité avec le framework C++, que pour le coup là, c'est vraiment différent.
Alors en fait, le framework C++, les API applicatifs sur Android ont toujours été en Java. Le C++, qu'on appelle le NDK, donc le Native Development Kit, était là vraiment pour plutôt tout ce qui est médias, jeux, et des portages bas niveau. Mais par exemple, tout ce qui est le UI Toolkit n'est pas accessible en fait. On n'a pas d'API native pour ça. Et souvent même, par exemple, tu veux faire du in-app purchase, faut passer par des API Java, même dans le code natif. Un des trucs aussi qui nous intéressait beaucoup avec Kotlin, justement, c'était l'interopérabilité qui va dans les deux sens. Où ce qui est super, c'est que pour la transition dans les applications, c'est, tu peux rajouter une classe en Kotlin et tout continue à marcher. C'est pas un énorme changement en fait. Ouais. Et puis Kotlin a le concept d'extension. C'est pas le premier langage à faire ça. Hein. Groovy, je crois à ça. Et donc nous, ce qui était pas mal, c'est qu'on a pu sortir un de nos premiers projets, ça a été de sortir tout un tas d'extensions pour les API existantes, pour améliorer les API existantes pour les utilisateurs Kotlin.
D'accord. Ouais. Le truc qui rend, j'avais testé Scala il y a quelques années. Bon, j'avais fait le cours sur Coursera. Ouais, voilà, c'était sympa, c'était cool, mais bon, c'était quand même pas évident de faire ça. Ce qui a été assez impressionnant pour moi avec Kotlin, c'est une fois que t'as passé le tutoriel de 5 minutes, t'es monté dans ton truc. T'as une classe Java, tu dis, bon, bah, comment je fais ça en Kotlin? Bah, tu dis, convertis-moi en Kotlin. Et boum, magie, t'as le truc en converti en Kotlin. Alors, c'est pas toujours parfait, etc.
Ils le font même si tu colles du code Java
Tu copies dans Stack Overflow du code Java et tu le colles dans ton IDE, d'un seul coup, c'est du Kotlin.
Il faut pas copier-coller du code Stack Overflow.
C'est lui qui a dit, hein.
Non, alors, on n'a pas fait ça. Clairement, non, mais si tu mets le lien vers Stack Overflow en commentaire, c'est bon. T'as le droit.
Non, mais en tout cas, comprends ce que tu fais.
On va effacer les dernières secondes.
Non, mais c'est ça, mais plus sérieusement, c'est une bonne manière d'apprendre aussi, parce que parfois tu dis, ah bah tiens, je sais pas faire ça en Kotlin, mais je sais le faire en Java, tu peux le taper en Java, tu le colles dans ton fichier Kotlin et tu verras à quoi ça ressemble.
Et inversement, en fait.
Ah, s'il y avait un truc tiens, je prends mon code en impératif, je le colle dans le réactif,
ce serait pas mal.
Pas encore là. mais du coup, tu as aussi l'autre sens où en fait, parce que du coup, quand tu commences à avoir une équipe de développeurs, il y en a qui sont vachement avancés, qui commencent à faire des trucs super fonctionnels où tu regardes, tu fais je comprends rien. Ouais. Tu copies, tu colles, d'un seul coup, et en fait, tu peux faire l'inverse, tu peux revoir du Java.
Ah, c'est une boucle fort en fait.
Non, mais c'est ça.
Ouais, des fois, c'est un peu ça. Comme l'autre jour, j'ai vu une extension, quelqu'un qui apparemment voulait pas écrire un if-else, et donc a créé un if-else fonctionnel.
Oui.
Tu sais, où tu passes des lambda, ou alors t'écris un if-else, ça marche très bien aussi.
Ouais. Et c'est vrai qu'en fait, plutôt dans des tests et tout ça, tu peux vraiment t'amuser à faire des mini DSL très facilement. Tu vas faire je sais pas, par exemple, tu fais une extension, je sais pas comment dire en français, sur une string qui prend une lambda et d'un seul coup t'écris quote quelque chose quote et ensuite quote c'est guillemets quelque chose guillemets ensuite accolade et t'écris des trucs. Enfin, et ça ressemble c'est un DSL complet. En fait, c'est assez rigolo. Mais tout ça est cliquable, tu peux aller naviguer, comprendre ce que le code fait, quoi. Donc ça, c'est cool.
D'accord. Perf Optim, c'est quoi que les gens optimisent? C'est la vitesse, conso mémoire,
alors batterie. Ça, c'est un truc qui nous tient à cœur avec PY. Sur mobile, la bonne réponse à donner, c'est tout. Faut tout optimiser, c'est la batterie, la mémoire, la vitesse. Il y a parfois.
Tiens, je vais donner un background. Donc là, dans le backend, en ce moment, comme il y a cette révolution container et qu'on veut de la densité, d'un coup, c'était pas en. Avant, Java, c'était du throughput par seconde et c'était super bon et ça consommait un peu plus, mais c'était pas grave. Maintenant, en fait, t'es en train de refaire des optimisations très différentes parce que là, la mémoire, elle devient.
Parce que tu partages des ressources.
En fait, la vraie réponse, c'est plutôt parce que les cloud providers, la façon dont ils price, c'est à la mémoire.
Ouais,
d'accord.
Ouais, la mémoire, où avant, il y avait les temps CPU. C'est des problèmes un peu similaires. C'est que sur Android, en fait, t'as plusieurs apps qui sont installées, qui peuvent tourner en background, etc. Et donc, si ton app se comporte mal, peut-être que ton app tournera bien, mais ce sera pour l'utilisateur, c'est la moins bonne expérience parce que quand il retourne dans les autres apps, il faut les relancer ou... Parce qu'on a, on a dû les tuer dans le background pour faire de la place.
Etc. Est-ce que l'OS, il dit, celui-là, c'est pas un super good citizen, et du coup.
De plus en plus, en fait. Android, quand ça a commencé, tout était vraiment ouvert et on laissait les apps faire un peu ce qu'elles voulaient. Et en fait, malheureusement, et je dis pas ça pour blâmer les développeurs, mais c'est que quand c'est facile, même sans rendre compte, on peut faire quelque chose qui est pas tout à fait correct. Et puis la prolifération d'applications, on installe tous de plus en plus d'apps sur nos téléphones. Et donc, de plus en plus, on met des limitations. Mais du coup, on en profite pour écrire des bibliothèques pour essayer de gérer ça de manière de plus en plus simple.
D'accord.
Mais c'est vrai que ça reste...
Il y a des outils pour dire, mon appli, elle se fait... Alors, se faire shooter.
Bah, on a même des API, en fait. Par exemple, quand il y a un manque de mémoire sur le système, on envoie des callbacks aux applis en disant, si tu veux pas être tué, essaie d'en profiter pour libérer un peu de mémoire.
Ça marche, ça?
Nous, on s'en sert beaucoup, bah, justement, dans le framework, parce qu'on a beaucoup de cache, par exemple, dans le système de rendu, et on essaie de dégager un maximum de choses pour que l'application ne se fasse pas tuer, tout simplement pour libérer de la mémoire pour les autres apps. Donc ouais, on réfléchit pas mal à ces problèmes, mais c'est assez compliqué. Et surtout, en fait, souvent, il y a une mauvaise conception de ce qu'est un téléphone moderne. Parce que maintenant, dans un téléphone Android typique, c'est 8 cores, c'est au moins 4 gigas de RAM, c'est un GPU, donc ça a l'air d'être une machine correcte. Et c'est vrai que c'est des machines qui vont vite, etc. Mais t'as des problèmes thermiques, t'as des problèmes de batterie. Parce que si l'utilisateur son téléphone meurt en milieu de journée, il sera pas content. Ouais. Et surtout que, par exemple, on a 8 cores, mais on n'utilise pas les 8 cores en même temps. On veut pas les utiliser parce que, bah, les problèmes de chauffe du téléphone, comme je disais, la batterie, etc. Donc
ça sert à quoi juste d'avoir du 8 cores au final?
Ben, en fait, alors, déjà, t'as deux systèmes. En fait, sur mobile, il y a un concept qui s'appelle le Big Little. L'idée, c'est qu'en fait, tu as, par exemple, sur un système à 8 cores, typiquement, tu vas avoir 4 gros cores qui peuvent aller à des fréquences très élevées qu'un jeu d'instruction qui est peut-être plus avancé. Ah oui,
4 qui consomment peu.
Voilà, et tu as 4 qui consomment peu. Donc typiquement, ce qui va se passer, c'est que généralement, si l'écran est allumé, on va utiliser les gros cores. Et pour les tâches de fond ou quand le téléphone est dans la poche, on va utiliser les petits pour consommer moins. Ou alors, dans certains cas, c'est on les allume tous, hein, on essaie d'utiliser tout ce qu'on peut. Le problème de ça, c'est qu'on peut pas forcément les... Si ils sont utilisés à 100%, ça va tellement chauffer qu'on va être obligé de réduire les fréquences ou d'en rééteindre.
D'accord.
Donc c'est pas des laptops. Et on voit d'ailleurs la même chose, par exemple, sur les laptops. Les laptops, souvent, ils ont 2 GPU. Il y en a un qui est allumé quand on est branché sur le secteur et l'autre qui est allumé quand on est sur la batterie. Ouais. C'est le même problème, en fait. Ouais. Donc on peut pas juste regarder les specs d'un téléphone et dire, c'est bien, je peux tout utiliser, j'ai 4 gigas de RAM pour mon app. C'est genre, non.
Après, un truc qui est assez intéressant sur le, donc on a vu effectivement en tant que développeur Android cette évolution, il y a de plus en plus l'OS en fait présente à l'utilisateur de plus en plus dans les nouvelles versions. Il y a une telle appli utilise beaucoup de networks. Voilà, c'est ça. Et bah c'est bien en tant que développeur, c'est bien parce que ça permet aussi d'aller parler aux autres développeurs en disant regardez, la nouvelle version d'Android, elle indique ça, donc il faudrait vraiment qu'on s'occupe de ça.
On a fait ça, par exemple, avec les foreground services où...
Alors, justement.
Voilà. Il y a un type de tâche qui, avant, se faisait en fond complètement, de manière invisible. Maintenant, si l'application en fait, il y a une notification permanente qui apparaît. Comme ça, l'utilisateur sait que l'application est en train de faire quelque chose.
C'est aussi lié à la privacy, ça.
Il y a aussi ça. C'est lié. Ça dépend ce que fait l'application, évidemment.
Et donc, justement, il y a un autre truc qui est arrivé. Je sais plus dans quelle version, mais, comment savoir, c'est l'idée d'indiquer qu'une application est en train d'utiliser la position GPS. Ouais. Et dans l'idée, c'est super. Mais il y a des bugs, je crois, dans Android 10 où, en fait, on sait pas trop pourquoi encore, mais a priori, il y a certaines applications. En gros, si Google Play Services, qui est une librairie que tout le monde utilise, en fait, il y a un process dédié qui est pas ton appli, qui est host Google Play Services, et ton appli parle à ce process. Et en fait, ce qui se passe, c'est quand ton appli parle à ce process, mais qu'il y a une autre appli qui parle à ce process, et que cette autre appli utilise la location, tu peux te retrouver à être blamé pour l'utilisation, à être mis en avant comme étant... Donc, t'as des applis qui utilisent pas du tout le GPS, qui ont rien à voir, genre un réveil ou quoi, et d'un seul coup, ils te disent, le réveil utilise ton GPS. Pourquoi?
Ça, c'est un bug de l'OS.
C'est un bug du système.
OS ou Play Services, enfin, c'est pas encore.
Mais c'est vrai que c'était un problème. En fait, c'était un problème pendant longtemps, parce que donc, les Google Play Services, c'est tout un tas d'API fournis par Google. Donc, typiquement, ça va être, par exemple, pour les in-app purchase, bon, c'est là-dedans. Mais ça va être donc la géolocation avec les API de Google Maps, etc. On a tout un tas de bibliothèques. Et donc ça, surtout, c'est des bibliothèques qui sont... Jetpack, c'est open source, par exemple. Google Play Services, c'est quelque chose de propriétaire à Google. Et le problème, c'est que donc t'as beaucoup d'applications sur le système qui parlent à ce truc-là. Et souvent, ce qui se passait, c'est que le système restait éveillé, on avait des problèmes de performance ou de batterie, parce que quelqu'un demandait à Play Services de faire quelque chose. Et en interne, tout le monde râlait contre les gens qui bossent sur Play Services. Mais en fait, c'était pas eux, c'était les utilisateurs de leur API, sauf que on pouvait pas savoir, donc on leur disait, arrêtez d'utiliser les ressources. Et donc là, on essaie justement pour l'utilisateur et les développeurs et même nous de savoir quelle application est responsable pour mieux contrôler le système. En fait.
D'accord. Et c'est vraiment.
En plus, les services, il devait aussi batcher ses demandes, j'imagine. Tu vois, le GPS, il le demande une fois tous les, je sais pas combien.
Alors, justement, ouais, c'est ces trucs qui sont arrivés au fur et à mesure. C'est au début, on faisait pas ce genre de choses. Puis, quand on voit les comportements, pareil, les tâches de fond, en fait, on a eu plusieurs API. Et maintenant, on a une librairie de Jetpack qui s'appelle Work Manager, qui, en fait, va utiliser la bonne API sur la version d'Android que tu as, les API installées, où justement, les applications disent, je veux faire quelque chose en tâche de fond. Et en fait, quelqu'un va se débrouiller pour batcher toutes ces demandes en même temps, histoire qu'on réveille pas le téléphone sans arrêt, quoi.
Ouais, c'est ça.
Et un truc qu'il faut bien j'aurais vraiment pas aimé bosser dans l'équipe Play Services. Je pense que c'est vraiment un job pas facile parce que ce qu'il faut bien se projeter, c'est qu'ils écrivaient. Donc, ils étaient pas shippés dans la version de l'OS. C'est un truc, comme une appli qui se met à jour toute seule. Ils avaient, et chaque appli utilise un jar qui parle, qui est dédié, qui est une version donnée des Play Services, qui fait des appels interprocess. Donc, en fait, sur un OS, pour une version d'OS, tu as, 200 applis qui ont toutes une version différente de la librairie Play Services, mais qui parlent à une seule appli.
C'est comme écrire un back-end avec des clients que tu contrôles plus.
Ouais, voilà, c'est ça. Mais en gros, le même code devait tourner dans, toutes les versions d'OS puisqu'il se faisait mettre à jour partout, et avec des clients qui sont tous dans des versions différentes. Donc, le truc impossible à gérer, quoi.
Et c'est littéralement, t'as une, comme un driver JDBC, t'as une librairie client que toi t'embarques.
C'est ça. Ah, c'est le même concept. Hein.
Et la batterie, est-ce que, c'est une question pour toi, est-ce qu'en tant que développeur d'appli, il y a naturellement une boucle de rétroaction qui te permet de dire, tiens, faut que...
Alors, en théorie, oui, surtout sur les dernières versions d'Android où, en fait, tu vois les applis qui sont les plus consommatrices. C'est un peu une question biaisée pour moi parce que travaillant à Square, en fait, ce qu'on fait, c'est essentiellement une caisse enregistreuse, un terminal de paiement. On est branché sur le secteur tout le temps, en fait, donc on s'en fiche.
Ouais, puis ça dépend beaucoup de l'application. Je me souviens, par exemple, quand Pokémon Go, c'est ça, était sorti, beaucoup de gens qui allaient en disant, oh, le téléphone, il chauffe, la batterie, elle tient pas longtemps. Mais cette application, elle fait la réalité augmentée, donc elle a le GPS qui est allumé. Elle a tous les capteurs de mouvement qui sont allumés. Elle a caméra. Les CPU, les GPU allumés, parce que ça fait du rendu 3D. La caméra, donc, toute l'électronique, littéralement, du téléphone est allumée. Et oui, ça va consommer de la batterie. Par contre, oui, une application plus typique, qui fait correctement, donc, qui schedule des tâches en background, en laissant le système les batcher, etc. Enfin, pas de problème.
Et du coup, est-ce que t'as des comportements explicites pour essayer de baisser la batterie, ou est-ce que les API t'encouragent finalement.
Alors c'est les deux. Par exemple pour les il y a tout un tas d'indicateurs dans le système où par exemple tu peux dire je veux faire une tâche de fond que quand je suis sur le secteur, que quand j'ai un réseau Wi-Fi, ou que quand j'ai un réseau par exemple qui va pas coûter de l'argent à l'utilisateur.
C'est d'ailleurs dans Android 10 là sur le support de la 5G, mais il te dit attention l'utilisateur est capé.
Ouais, c'est ce qu'on appelle les réseaux metered. Ça peut être n'importe quoi en fait. Par exemple, même un réseau Wi-Fi public, je sais pas, où tu dois payer pour au giga, le système te le dit. Et comme ça, tu peux ne pas télécharger un truc énorme en disant attends, ça va coûter de l'argent. Donc on essaie de plus en plus, d'avoir ce genre d'API pour aider les applications à avoir le bon comportement en fait.
D'accord.
Après, je dirais ce qui manque. En fait, ce qu'il y a aujourd'hui, c'est que si tu sais où est-ce que tu consommes de la batterie, tu as la capacité de faire des choix et de pas la consommer. Le gros problème.
T'as un outil qui dit quand même tu consommes.
Alors,
on va parler d'utilisateur.
Pour moi, c'est encore un endroit où Android est un peu faible. C'est-à-dire que tu peux. Imagine, tu peux plugger ton débugger et comprendre ce qui se passe. T'as tout un tas d'outils pour visualiser sur ton téléphone, à la maison, au boulot. Tu branches, tu regardes. Oh, là, j'utilise beaucoup, là, j'utilise pas beaucoup. Là où ça manque vraiment d'outillage, c'est sur la masse. C'est-à-dire, j'ai une appli qui est déployée sur 1 million de devices. Et j'aimerais savoir si mon appli se comporte bien ou pas de ce point de vue-là. Et ils ont fait beaucoup de progrès sur Play Store en te donnant des stats, mais c'est encore, notamment au niveau batterie, c'est très très loin. Quoi.
Le problème, c'est que mesurer la consommation, c'est extrêmement difficile. Ouais. Parce que rien que tu prends les CPU, par exemple, sur le nombre de CPU que tu as, les CPU que ton application est en train d'utiliser, ça va pas être la même consommation. Les écrans, entre l'écran LCD et un écran OLED, ça va pas être la même consommation. La taille de l'écran va jouer, la brightness, la luminosité de l'écran va jouer. Donc il y a tout un tas de trucs comme ça, et simplement aussi tu as toutes les configurations possibles de matériel de téléphone Android, il faudrait qu'on connaisse, en fait, pour chaque composant, exactement comment le composant est utilisé, quelle quantité de batterie ce composant utilise. Ouais. Et il faudrait des trucs au niveau hardware, etc. Donc on essaie de faire des choses.
J'ai une petite question. Ouais. Alors, il y a très longtemps, tu me disais, bah, tiens, le bleu, c'est ce qui consomme le plus.
Alors, c'est amusant parce que c'est toujours le cas aujourd'hui sur les écrans OLED, et c'est pour ça que maintenant tu vois beaucoup de, tu sais, les thèmes noirs qui sont revenus à la mode, comme Android au début.
En fait, c'était ça ma question là-bas, c'était, ouais, est-ce que c'est un vrai truc ou un faux truc de dire je prends le dark thème parce que ça consomme moins.
Sur les écrans OLED, c'est vrai. Et la différence, alors je sais plus les chiffres exacts, il y avait une présentation à Google I/O, je crois, soit cette année, soit l'année dernière, qui expliquait vraiment, qui montrait des chiffres. Mais ça peut aller, par exemple, afficher que du rouge au lieu de que du bleu, ça va être une différence peut-être de 200% en termes de consommation de batterie. Et l'écran, pour une app relativement classique qui ne fait pas des calculs excessifs, qui n'utilise pas des gros rendus 3D, l'écran va être, avec le réseau, va être de loin ce qui consomme le plus. Donc ça peut faire une grosse différence.
D'accord.
Mais bon, de là...
Donc ça, c'est pour le téléphone, mais... Quand je suis sur mon laptop et tu dis j'utilise le dark theme parce qu'en plus je sauve la planète.
Si ton laptop c'est un écran LCD, ça va rien changer du tout. Parce qu'un écran LCD, ça marche, c'est que tu as des petites lampes qui éclairent l'écran. Et donc ton écran il affiche du noir ou du rouge, les petites lampes elles sont toujours là. La différence c'est que les OLED, chaque pixel est lui-même une lampe. D'accord. Et donc suivant la wavelength, la longueur d'onde de la couleur, ça demande plus ou moins d'énergie. Et le blanc, par définition, c'est toutes les longueurs d'onde, donc c'est ce qui consomme le plus d'énergie. Et le noir sur un OLED, c'est pour ça que les OLED ont des noirs qui sont très, très noirs, c'est que c'est juste c'est pas allumé.
Ouais. Ça a toujours été... genre sur mon écran cathodique, c'était déjà comme ça. On n'avait pas des noirs impressionnants, loin de là.
Sur les écrans cathodiques, t'as un canon électron qui balaye tout l'écran, donc qui va illuminer tous les pixels.
Bah, sauf les points qui doivent pas être allumés.
Ah si, alors, les écrans cathodiques, il me semble que si, ça va tout balayer. En fait, c'est que, par exemple, les écrans LCD.
Pour les jeunes, les écrans cathodiques, c'est ceux qui étaient en 3D avec un truc.
C'est ceux qui étaient pas plats.
Ouais.
En tout cas, sur les écrans LCD aujourd'hui, comme je disais, c'est éclairé par des lampes. Les noirs, ils apparaissent noirs, c'est par contraste, en fait.
Ouais.
C'est comme, en fait, les vidéoprojecteurs. T'as un vidéoprojecteur chez toi. Ce qui apparaît noir, en fait, c'est pas noir, c'est juste que c'est noir. Comparé à ce qu'il y a à côté.
Oui, là, il y a un outil, c'est un outil assez relatif.
Oui, c'est lequel de dire.
Alors, on va faire un truc sans transition. Injection de dépendance, alors. C'est quoi le débat, là?
C'est une des options
plein de débat.
Ouais.
On a eu, alors, il y a quelques années, avec Romain, on avait souvent des discussions où je disais, on parlait d'injection de dépendance, de comment faire, etc. Enfin, moi, je parlais de ça.
Parce que la plateforme, elle offre... rien du tout.
Non.
Ouais. Et Romain me disait, c'est okay, pourquoi tu veux pas écrire des applis à la place?
Je peux pas écrire new.
Voilà. C'est ça.
Et après, je me souviens de toutes les horreurs, toutes les histoires que tu m'as racontées sur le genre de bug que vous aviez avec.
Oui, voilà.
On a un crash quelque part. C'est pas d'où ça vient, on sait pas pourquoi. C'est stack reste trop long.
Ouais.
Du coup, il a écrit. On en reparlera.
Mais aujourd'hui, c'est rigolo parce qu'en fait, il y a vraiment eu. Quand j'ai commencé Android, on n'avait pas d'injection de dépendance. Mon premier réflexe était, je vais prendre Spring IOC et puis je vais essayer de le mettre dedans. Et en fait, ça marchait pas parce que Spring utilise des dépendances sur les trucs de Swing ou de Bean Properties.
Ça c'est dommage parce que. Personne l'utilise parce que ça tire à WT ou une seule.
Voilà, exactement. Et du coup, parce qu'il y avait ça, Spring ne marchait pas. Donc à l'époque, on avait commencé à utiliser Google Juice, qui était quand même assez lent. Ensuite, il y avait eu une version light de Google Juice qui était un peu plus rapide. Et Jesse Wilson, et qui travaillait à Google, est venu chez Square et il a fait la release de Dagger 1, qui, en gros, ça fait à peu près la même chose que Juice, sauf qu'il y a une partie de ce qui se faisait en réflexion qui est fait avec la génération de code.
Ouais.
Mais aujourd'hui, en fait, aujourd'hui, c'est largement, je pense que c'est largement adopté dans la communauté Android.
C'est de loin le plus répandu, mais c'est pour ça que j'embêtais PY à l'époque. C'est pas l'injection de dépendance que je trouve gênant, parce que c'est, évidemment c'est
exportable. Il y a la bonne et la mauvaise injection.
Non, c'est l'obsession que ça devient. Parce que même aujourd'hui, et donc Dagger a très répondu, mais on a encore, donc t'as encore des systèmes d'injection de dépendance. Par exemple, sur Reddit, t'as sans arrêt. C'est quoi celui sur Kotlin, là? C'est
Coin.
Voilà. Donc t'as Coin. Alors ceux qui disent que c'est un service locateur, donc c'est pas la vraie injection. Est-ce qu'il
y a des fights même sur de savoir si une librairie est de l'injection de dépendance ou pas. C'est-à-dire, au lieu de s'intéresser, est-ce que ça m'aide, est-ce que ça m'aide pas, et quels sont les bugs que j'ai ou les problèmes que j'aurai avec ces patterns-là.
Comme à l'époque de Spring, de Pico, de machin.
Ouais, c'est ça. Voilà.
C'est la même,
juste avant de retard.
Mais effectivement, Apache, Avalon, ça le prend.
Et donc
on essaiera peut-être de faire un épisode parce que Sylvain Wallace, en fait, à un moment, je faisais une blague là-dessus. Tiens, Apache, Félix et tout, il a fait genre... en fait, visiblement, il a contribué, donc on va peut-être refaire... l'archéologie.
Voilà, donc c'est plutôt ça, ce côté que je trouve un peu amusant, c'est en fait le et je comprends aussi pourquoi les gens sont passionnés par ça, parce que c'est une partie importante des applications, mais finalement le temps qui est passé à savoir est-ce que j'ai pris la bonne librairie pour faire mon MVVP, mon MVVV, machin, ou mon injection
de dépendance. Est-ce que j'ai pris la bonne aussi architecture?
Voilà, c'est plutôt, t'en soucie pas tant que ça marche pour tes besoins, et si un jour c'est plus la bonne, bah change, mais essayons d'être un peu plus pragmatique, quoi.
D'accord. Et attends, juste pour toi, la valeur de l'injection de dépendance?
Bah, c'est la job security. Non, je déconne. Oui, ben, enfin, c'est les classiques, hein. C'est,
oui, parce que sans l'injection de dépendance, les gens voient exactement les paramètres que tu passes à tes constructeurs. Avec l'injection de dépendance, il n'y a qu'une personne qui le sait. C'est pire, ouais.
Non, puisqu'avec Dagger 2, le code d'injection de dépendance est généré. Donc, je peux voir le code qui appelle mes objets. Non, c'est toujours pareil. C'est que ça facilite le pattern d'injection de dépendance, qui est donc, de découpler ton code en séparant ton code en différents composants, de façon à séparer les différents concerns, les différents concepts, je suppose. Et donc en gros c'est que tu passes tes services par constructeur, et donc tu vas pouvoir tester des choses en isolation, donc t'écris du code plus testable, donc c'est bien.
Ouais, mais tes dépendances sont toujours là. D'ailleurs, c'est dans le nom, injection de dépendance.
Oui, en fait,
tu découples, mais t'as quand même des dépendances entre les différents modules.
T'as pas besoin de libérer d'injection de dépendance, t'as besoin du pattern, en fait.
C'est très spaghetti, en fait, parce que les gens, ils arrivaient pas à être disciplinés.
Ouais.
Oui, c'est toujours à faire.
Isolés, en fait.
En fait, ce qui se passe, c'est qu'une fois que t'as une librairie d'injection de dépendance, tu peux engueuler les gens en disant, bah non, fais pas un singleton statique Java, utilise l'injection de dépendance. Bah non, crée pas ton instance, utilise l'injection de dépendance. Et donc, naturellement, tu vas avoir tendance à écrire ce code qui est et découple les différentes parties, etc. Après, tu peux, si tu es très strict et que tu écris bien du code, bah, tu n'as pas besoin t'as pas besoin d'injection de dépendance, except à l'exception du fait que quand tu commences à avoir beaucoup beaucoup de classes, il faut créer les choses en bon ordre. Et faire ça manuellement, c'est compliqué, tu vas avoir des bugs. Et c'est là que la librairie va être capable de dire, bah non, il faut que je crée A d'abord, ensuite que je crée B et je lui passe à A, etc.
Et t'as pas de temps en temps justement des problèmes où
en plus t'as les gens qui veulent faire des trucs circulaires.
Voilà. Exactement. Mais justement en mettant de l'initialisation, je sais pas, les temps de démarrage des applications sur mobile, c'est important parce que c'est assez transparent pour l'utilisateur savoir que l'app est en train de tourner ou pas. C'est pas comme sur desktop, on le sait pas vraiment. Et donc quand il faut réinitialiser tout depuis zéro, justement quand tout ça c'est un peu caché, c'est pas facile de se trouver dans un cas où tu te retrouves avec une dépendance supplémentaire sans vraiment t'en rendre compte parce que quelqu'un a changé un truc 3 dépendances plus bas, et du coup, et d'un seul coup, tes temps de démarrage sont plus lents et tu sais pas vraiment pourquoi, ou...
Je pense pas que...
Ça dépend ce que tu fais.
T'aurais le même problème, c'est-à-dire que, de toute façon, tu aurais appelé.
Ouais, non, c'est vrai. Non.
En fait, ce serait voir, même avec des singletons statiques, c'est pire parce que tu as des choses qui sont en classe loading. Tu vois, quand c'est au class loading, tu sais même
plus. D'accord, mais entre l'injection de dépendance complète à la Dagger et le singleton statique, il y a aussi, il y a quelque chose entre les deux. Il n'y a pas que l'un ou l'autre.
Au final, tu te retrouverais quand même avec, quand il y a beaucoup de code, c'est beaucoup de code.
Bien sûr.
Tu as ces espèces d'incidences. Là où c'est intéressant, c'est justement avec du code généré, tu peux exactement tracer ce qui se passe. Et donc mieux comprendre ce sont les problèmes. Après, donc le souci, donc nous on utilise en interne, on utilise un outil qui s'appelle Dagger 2, qui est une librairie open source, qui génère ça fait aucune réflexion, et donc ça génère tout le code d'injection de dépendance. C'est cool. Le seul problème, c'est que les erreurs sont très très compliquées à comprendre. T'as des erreurs à la compilation, et en fait, il faut traduire, quoi. C'est-à-dire que souvent, les gens viennent me voir en disant, bah là, j'ai un souci.
De toute façon,
tu leur expliques, mais en fait, c'est parce que t'as fait ça.
C'est un problème un peu classique. Ça me rappelle, par exemple, des cas que j'avais vu, par exemple, avec les RxJava, où comme ton code est appelé à travers toute une couche que tu contrôles pas forcément, enfin les stack traces deviennent beaucoup plus difficiles en fait à suivre et à comprendre pour savoir d'où viennent vraiment des erreurs.
Sauf qu'en plus là t'as des stack traces de compilation, des erreurs de compilation, et donc du coup tu en fait t'es obligé de traduire. Ah oui, en fait là il te dit que une erreur typique de Dagger, ça va être j'ai une erreur dans la compilation Java du code généré. Donc c'est même pas Dagger qui te fait une erreur, c'est qu'il a généré du code qui compile pas.
Ouais, mais
c'est comme faire du
C++. Je pourrais se limiter un peu, tu vois.
Ouais, complètement, mais en fait c'est aussi parce que bah il faut
que la compilation soit rapide, sinon après le développeur ira.
C'est un peu ça, et puis c'est aussi que il y a l'équipe Google qui bosse sur Dagger, ils ont beaucoup de taf à côté, ils font aussi tout ce qui est Guava, etc. Et donc ils ont pas forcément le temps de tout gérer, quoi.
Parce que clarifier que t'as, tu vois, une ambiguïté ou un truc non résolu, c'est quand même, au début, quand on utilisait le compilo Java, les erreurs, c'était un peu folklore pour trouver le truc. En fait, quand tu décris tes trucs, tu me rappelles exactement ça. C'est que il y a un travail de maturité,
l'exemple de la classe qui compile pas, c'est assez rigolo, en fait. J'ai eu ça récemment, t'as une dépendance qui utilise Dagger, ils ont oublié de faire tourner la génération de code sur cette dépendance. Donc ils ont, t'as des annotations, t'as tout ça, mais t'as pas la génération de code. Et en fait, le consommateur fait aussi tourner le compilateur Java Dagger, il regarde le classpass, il dit ah bah t'as utilisé telle annotation, donc tu utilises Dagger, donc je suppose que t'as fait tout tourner, donc je vais générer le code qui va bien. Et ce code qui est généré, il dépend d'autres codes qu'on attend d'avoir été générés dans un autre module.
D'accord.
Donc, il check pas que le truc est là.
D'accord.
Et du coup, erreur de compilation en disant, ce code n'existe pas, ce qui est très compliqué à comprendre.
Okay. Ouais. Donc, je comprends pourquoi tu dis, mais pourquoi?
Non, effectivement, quand ça arrive,
non, je comprends pourquoi. Mais c'est toujours, en fait, un des dangers quand tu prends des dépendances de manière générale sur des bibliothèques ou des outils, c'est quand tu as des problèmes, quand ça satisfait plus tes besoins à toi. C'est quelque chose qu'il faut faire en réfléchissant très sérieusement. Ce que je vois souvent, par exemple, c'est des développeurs d'applications où tu sais que tu vas faire une petite app et qui partent je vais utiliser Dagger et React Java et machin et truc, et ils sont en train de faire une calculatrice.
Ouais.
Parfois c'est aussi peut-être que t'en as pas besoin non plus. C'est bien d'avoir des best practices, c'est bien d'avoir des choses qui sont comprises par la communauté, mais parfois t'as l'impression que c'est fait parce que tu sais, ça me rappelle à l'époque quand tout le monde sait Eclipse parce que tout le monde utilise Eclipse.
Je vois pas le non mais
ça devient un réflexe en fait.
C'est quoi, c'est NetBeans versus Eclipse
par rapport à quoi?
Aujourd'hui par rapport à d'autres IDE, par exemple comme IntelliJ, ouais. dans la communauté Android, mais ou même tous les autres IDE qui sont sortis depuis, c'est plus quand tu sais ça devient ça devient un réflexe en fait pour tout le monde.
En fait,
sur des solutions sans se demander est-ce que j'ai besoin de cette solution cette fois-ci.
Oui.
C'est aussi quand t'as investi du temps à comprendre un outil, c'est bien ton beau marteau et t'as envie d'utiliser ton beau marteau et tu deviens un peu.
C'est la job security quand
tu. Tu vois, un jour.
Non, mais sur les ORM, on avait la même pareil.
Bien sûr.
Les gens qui disent on passe tout le temps comme ça et puis après tu.
Mais c'est pareil, le nombre d'ORM qu'il y a eu, savoir lequel est le bon. Mais un jour, ça me donne envie d'aller postuler dans une boîte, parce que tu vois souvent les offres d'emploi, maintenant, Android, c'est genre, il faut connaître Dagger, il faut connaître machin. Et moi, je me prends le temps en disant, non, mais je sais pas m'en servir, mais si tu veux, je t'en écris un.
Voilà, l'épisode était un petit peu long, donc on l'a coupé en deux. Dans la deuxième partie, on discutera de fuite mémoire, d'attaque, de protection, de microservices. Ça, je m'y attendais pas, pour être honnête. Et puis, des ressources, les podcasts Android, etc. De monorepo, de Gradle, tous les autres choses un petit peu spécifiques que les développeurs Android vivent. Le thème musical est le thème numéro 3, gracieusement offert par podcastthemes.com, podcastthemes.com. Le logo a été dessiné par Nicolas Martignol, alias le Touilleur Express, www.touilleur-express.fr.